à tous et bienvenue autour de votre grande table. Plus de 65 ans après l'installation des usines Renault au cœur des Mureaux dans les Yvelines, que sont devenus les fils d'ouvriers? Qu'est-ce qui rythme aujourd'hui le quotidien des habitants de cette banlieue populaire? Manon Hotte a fait un livre-enquête et un film urbain qui sort en salle demain. La réalisatrice et chercheuse en sciences sociales nous rejoindra pour en parler après le journal de Thomas Cluzel. Mais d'abord, vu chez Robert Guédiguian, Christophe Honoré, Valérie Donzelli, Claude Miller ou encore François Ozon, la nouvelle amie du cinéma français est à l'affiche d'Alice et le maire de Nicolas Parisère, présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes et en salle mercredi prochain, le 2 octobre. Anaïs Demoustier est surtout tout de suite notre invitée à écouter sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Un maire en crise dans une époque en crise. À sa demande, la mairie de Lyon va recruter une universitaire philosophe, Alice Heyman, chargée de renouveler son logiciel d'idées. Après 30 ans de vie politique, c'est comme ça, Paul Terrano, Fabrice Lucchini, cherche un second souffle. Bande annonce.
Vous connaissez mon parcours ?
Je sais que vous êtes un homme politique. Vous êtes le maire de Lyon.
Ils ont payé le prix.
Le maire, il va bien. Quoi ?
Je vais essayer de vous exposer ma situation. J'ai toujours eu des idées. J'avais 25, 40, 50 idées par jour.
Non. Oui.
Et puis je me suis réveillé un matin, j'avais plus d'idées. J'arrive plus à penser. Comment vous vous appelez ?
Alice Heyman.
Bon, Alice Heyman, il faut que vous me fassiez penser.
Je vais être brusque.
Allez-y.
Vous n'avez pas l'impression de ne plus pouvoir régler un seul problème ? Moi, je pense que c'est ce dont les citoyens ont l'impression.
Monsieur le maire, excusez-moi, on nous attend.
Non, on ne nous attend pas, on m'attend moi. Vous distribuez ça à tout le monde et vous leur dites que il remplace et il annule l'autre discours. Ok ?
Ok.
Ton nouveau bureau crée un énorme scandale à la mairie.
Un scandale ?
Il y a même une pétition qui circule.
Il faut rester modeste. Pas de mégalomanie, pas de gigantisme. Ça va les notes. Je fais pas un cours sur Spinoza. Alice Heyman, est-ce qu'elle prend des notes ? Elle prend pas de notes.
L'influence que tu as sur lui, il faut qu'elle cesse. En fait, t'es en train de me dire qu'il doit nouveau arrêter de penser, c'est ça ? Je suis désolée, mais je n'ai plus le même. Et je te remercie, Alice.
Alice, on va écrire tous les deux le discours de ma vie.
Bonjour à vous, Anaïs Demoustier.
Bonjour.
Est-ce que ce film vous a réconcilié avec la politique ou est-ce que l'entente était déjà bonne avant même le tournage ?
Disons que le film a confirmé une sorte de désarroi dans lequel j'étais vis-à-vis de la politique, vis-à-vis de, je dirais, du théâtre politique surtout, parce que c'est vrai que en tant que citoyenne, je trouve qu'on entend beaucoup parler de la politique. Sous ces aspects un peu théâtraux, justement. Et j'aimerais, moi, entendre des paroles qui soient plus... Qui surnagent un peu, des paroles d'hommes politiques qui soient fédératrices et encourageantes et qui nous rassemblent. Et je trouve que ça manque un peu. Mmh. Et le personnage du film, Alice, est dans une sorte de curiosité vis-à-vis de ce monde-là. Elle entre à la mairie de Lyon, elle connaît très peu ce milieu-là et elle le découvre. Elle le découvre de l'intérieur, ce que j'ai fait à travers elle.
Elle le découvre à travers tout son personnel politique, celui de cette mairie, de cette municipalité. Le film a d'ailleurs été tourné à Lyon et c'est la mairie de Lyon qui est aussi représentée dans Alice et le maire de Nicolas Parisère. Mais elle le découvre surtout à travers un homme qui est le maire de Lyon, interprété par Fabrice Lucchini. Il est un peu old school, mais est-ce qu'il donne quand même plutôt une bonne image pour vous de la politique ? On sent une sincérité dans cette action qu'il mène depuis plus de 30 ans à la tête de la municipalité.
Oui, je trouve que il est regardé déjà par le metteur en scène Nicolas Parisère avec beaucoup de bienveillance, pas vraiment de surplomb. Et c'est vrai qu'on assiste à un homme qui perd les pédales, en fait, qui n'y arrive plus et qui le dit assez sincèrement, qui dit « je tourne à vide, je n'arrive plus à penser ». Et le film raconte le conflit qu'il peut y avoir entre l'action et la pensée. Et à force d'être dans l'action, la tête dans le guidon, pour le dire un peu vulgairement, il n'arrive plus à réfléchir. Mmh. Et c'est vrai que la manière qu'a Lucchini d'endosser ce personnage-là et de le montrer avec à la fois ses limites et en même temps ses ambitions, parce que c'est un homme qui dit avoir tout consacré à la politique, avoir une sorte de vocation, c'est vraiment un homme volontaire. Simplement là, il est à bout de course.
Oui, Alice Elmer, elle mérite à la fois de nous faire ressentir les limites de l'action municipale et en même temps peut-être aussi d'en cerner les possibles. Il y a cette scène, ce dialogue vraiment compliqué et en même temps très drôle entre le maire et une artiste qui est travaillée, elle, par l'ère de l'anthropocène dans laquelle on est entré. Et on sent que c'est vraiment un dialogue de sourds, que les deux ne peuvent pas se comprendre.
Oui, oui, oui. Oui, oui, le film joue avec des espèces de comiques de situation. Effectivement, il y a des dialogues qui ne peuvent pas... il y a des gens qui ne peuvent pas s'entendre, qui ne peuvent pas se comprendre. Elle est idéaliste, elle aimerait que cet homme qui représente sa ville puisse l'aider, puisse changer les choses. Et elle est face à une sorte de mur, en fait, puisque lui n'a pas du tout de place dans son action municipale pour ces questions-là.
Invité des Matins de France Culture au moment de Cannes, Nicolas Parisère disait, justement, pas tous pourris. Ce qu'il voulait dire, c'était que notre démocratie est fatiguée, on l'écoute.
Il y a une tradition, je pense aux États-Unis, de séries un peu cyniques, voire un peu de droite, comme House of Cards, effectivement. Et puis il y a aussi une grande tradition de films politiques, disons, pour le dire vite, rooseveltiens, que ce soit les films de Capra ou jusqu'à la série à la Maison Blanche. Et moi, disons, en tant que Français, j'avais plutôt envie de m'inscrire dans une logique rooseveltienne que dans une logique...
Une logique rooseveltienne.
Oui, disons, une logique de gauche, une logique où on croit encore un peu... on ne croit pas que le cynisme est fondamentalement la fin et les moyens et de tout acte politique, de toute... que les hommes et les femmes dont le métier est de faire de la politique ne sont pas tous forcément des monstres ou voilà.
Voilà, il y a un côté assez optimiste, effectivement, dans ce film qui, à la fois, acte la rupture réelle entre le monde intellectuel et les politiques, avec cette idée que les communicants ont pris le pouvoir et ont pris la place et les mots des sachants. Mais c'est aussi un film qui tente, à travers ce binôme, de réconcilier ces deux sphères, celle de l'action et celle de la réflexion. Est-ce qu'ils y parviennent, l'un et l'autre, dans ce dialogue qu'ils ouvrent ensemble?
Ah oui, moi j'ai l'impression qu'ils y parviennent complètement. C'est ça qui m'a passionnée moi le plus dans ce scénario et après dans cette aventure de tournage, c'est que le film raconte ce qu'il y a derrière les fonctions et derrière cet homme politique, derrière ce maire de Lyon, il y a un homme, derrière cette jeune philosophe engagée pour l'aider à penser, il y a une jeune femme et en fait ce qui fait leur rencontre, c'est leurs deux intimités, leurs deux solitudes et comment ces deux personnages-là vont se modifier. Il y a vraiment une confrontation entre eux, une douce confrontation mais qui a vraiment lieu et qui pour moi se manifeste surtout à la fin dans cette scène où ils rédigent ensemble un discours. Je trouve que c'est une scène assez magnifique qui ressemble presque à une scène d'amour. Je me suis aperçue en tournant qu'en fait l'échange des idées, la joute verbale, le dialogue autour des fondamentaux, ça occasionnait une rencontre immense, parfois plus grande qu'une rencontre amoureuse ou une rencontre amicale.
Parce qu'il y a une grande séduction quand même qui s'opère entre les deux. Lui d'ailleurs dit dans le film à un moment les femmes m'impressionnent. Hein. Et c'est vrai qu'ils utilisent l'un et l'autre la parole pour séduire ou pour convaincre. Et c'est une parole plutôt libre, une parole qui cherche à faire sens. On comprend qu'elle essaye de le convaincre de la place des idées aujourd'hui encore, et notamment des idées comme moteur de l'action. Lui, pourquoi essaye-t-il de la séduire? Qu'est-ce qu'il essaye de lui apporter de son côté?
Ah, ça c'est très étonnant, parce que c'est une chose que je me suis pas... je me suis pas interrogée là-dessus, puisque j'ai pensé à mon personnage et à ce qu'elle percevait de lui.
Alors ça marche, ses motivations en tout cas. Elle est quand même fascinée par lui.
Oui, elle est fascinée par lui. Elle est admirative et elle est respectueuse de son travail. Elle sent qu'il a envie de bien faire. Elle voit qu'il a des limites, mais elle perçoit qu'il l'entend et qu'il l'écoute. Elle met du temps à l'atteindre, parce qu'au départ, en fait, on lui dit « Écoute, voilà, ta mission, c'est de travailler aux idées. Tu vas devoir travailler avec le maire. » Et elle s'aperçoit que le maire est quasiment insaisissable. Elle n'arrive même pas à avoir un entretien avec lui. Et ça a lieu parfois la nuit, très tard, dans son bureau. Elle est convoquée, elle y va en courant. Ça a lieu entre deux trajets en voiture ou au sein d'une voiture pendant 2 minutes, le temps d'un trajet très court. elle a du mal à l'atteindre. Et puis petit à petit, le temps du film, le dialogue a vraiment lieu et a vraiment toute sa place et même la plus grande place. Elle devient vraiment la personne la plus importante pour cet homme à la mairie. Il s'appuie sur elle et c'est très beau de voir que elle, qui est une femme qui pour le coup n'a aucune ambition, elle est pas du tout dans des rivalités avec les autres personnes de la mairie. Elle n'a aucun problème de place. C'est une femme qui est traversée par des grandes questions existentielles, qui se demande un peu à quoi ça sert tout ça, quelle est sa place dans le monde. Elle a engrangé énormément de savoir, elle a vraiment fait des longues études et en même temps elle ne trouve pas vraiment d'endroit où elle peut exercer tout ça et comprendre à quoi ça lui a servi. Donc elle a c'est une espèce de note, moi, que j'adore, d'un personnage féminin qui n'est pas dans l'ambition exacerbée ou dans l'hystérie. Elle est très en place. Elle ne se laisse absolument pas gagner par l'effervescence de la mairie, quoi, et des ambitions politiques, des rivalités à l'intérieur de la mairie.
Voilà. Puis on dit toujours que les femmes sont fascinées par le pouvoir. En tout cas, les hommes qui en ont du pouvoir. Là, pour le coup, le pouvoir, en tout cas, n'opère aucune séduction sur elle. C'est plutôt son humanité à lui, ou en
Exactement.
Tout cas la manière dont il peut l'exprimer. Il y a cette scène qui est très drôle où il l'appelle au milieu de la nuit pour être rassuré. D'ailleurs, elle n'est pas dupe, elle n'est pas naïve à chaque fois. Il parle que de lui tout le temps.
Ouais.
Et au final, il attend d'être rassuré réellement.
Hein. Oui, elle lui dit, vous dites tout ça pour que je vous flatte. Parce qu'il dit, elle dit, mais non, vous n'êtes pas vide. Il lui dit, moi, je me sens vide et tout. En fait, je ne pense pas du tout qu'il se sente si vide que ça. Elle se sent vraiment vide. Et on le voit dans une scène juste avant, elle se confie à son ancien meilleur ami. Mais elle n'est jamais dupe de ce que lui fait pour la séduire et de ses habitudes-là.
Voilà, alors le maire, c'est donc Fabrice Luchini dans ce film de Nicolas Parisère. Pour réussir à en placer une en interview avec Fabrice Luchini, en tout cas et sûrement quand on est une femme, il faut être sacrément forte et patiente. Vous avez dû jouer des couses aussi sur le tournage ?
Pas du tout. J'avoue qu'on a fait très peu d'interviews ensemble, donc en interview je peux pas vous en parler, mais sur le tournage ça a été une rencontre entre deux acteurs, vraiment c'était absolument merveilleux. Déjà parce que moi je crois que j'ai pas vraiment de problème de place. Enfin, je savais que Nicolas Parisère allait me filmer. Je savais la place qu'avait mon personnage et mon rôle au sein du film. Donc, je n'étais pas inquiète de cette histoire de l'acteur qui pulvérise son partenaire, qui prend toute la place. Ça me faisait pas trop peur. Et puis j'ai rencontré finalement un acteur extrêmement à l'écoute, très généreux. On a vraiment joué ensemble et vraiment au cinéma, c'est assez mystérieux. Mais il y a des moments où on peut jouer chacun dans son couloir et ne rien échanger. Avec Fabrice Luchini, j'ai vraiment la sensation qu'on s'est rencontrés dans le jeu et qu'on a eu l'un et l'autre du plaisir à jouer ensemble. Par ailleurs, il a une grande énergie que vous connaissez, qui est une énergie qui fait du bien à un plateau de cinéma, qui fait du bien à une équipe. Enfin, je trouve que c'est très fédérateur la manière qu'il a de se comporter sur le plateau. Et puis c'est un grand acteur, donc je pense qu'il était l'acteur idéal pour interpréter ce rôle-là. Il a quand même une sorte d'aisance avec les mots, un sens du rythme. Et donc c'était vraiment un plaisir de jouer avec lui.
Et en tout cas, à l'écran, on ne le sent pas débordant.
Pas du tout.
On le sent fidèle au texte, ce qui est important parce que le texte est central, visiblement, dans ce film. Par instant, d'ailleurs, on se dit que Romère est jamais très loin. On pense à l'architecte, le maire et la médiathèque, ce film, où on voyait aussi l'action à échelle municipale d'un homme pour la construction d'une médiathèque. Médiathèque et pas médiathèque.
C'est l'arbre, le maire et la médiathèque, non ?
C'est l'arbre. J'ai dit l'architecte ?
Oui, l'architecte.
C'est l'arbre.
Ouais. C'est ça.
Le pouvoir à échelle d'homme, Luchini, déjà, et le dialectisme propre au réalisateur de Manu chez Maud. Vous l'avez vu passer, ce fantôme de Romère, vous, dans
Oui, oui, je l'ai vu passer parce que Parisère m'en a parlé, qu'il a été élève d'Éric Romère à la fac, donc c'est vraiment quelqu'un que Nicolas Parisère admire énormément. Et il m'a montré quelques films avant, notamment L'Arbre, le maire et la médiathèque. C'est pour ça que je me souviens bien du titre. Mais après, au moment du tournage, moi, j'y ai absolument pas pensé. Non. Mais c'est sûr que ça teinte le film et que, comme vous le disiez, le texte est au cœur du film. Et c'est l'intelligence de Luchini, c'est qu'en fait, c'est effectivement un acteur qui a une grande nature, mais qui sait très bien que quand le texte est aussi bon que celui-là, il faut le prendre comme un appui. Et donc on s'est tous les deux appuyés sur ce texte, qui était quand même un peu laborieux, un peu difficile à la lecture. Et notre travail, ça a été de le rendre fluide, de se l'approprier. Ça, c'était très passionnant. Parce qu'en fait, c'est assez rare au cinéma d'avoir des si longs textes, de travailler avec des metteurs en scène qui prennent le temps de longs plans séquences, juste d'une scène de conversation entre deux personnages. Et moi, j'ai eu vraiment une sorte de jubilation totale à faire ça, quoi.
C'est-à-dire que c'était un texte où les mots que Nicolas Parisère vous mettait en bouche, qui vous convenaient bien, aussi dans les raisonnements que vous aviez à tenir sur ce plateau.
Oui.
Dans ce rapport à la vie qui était aussi proposé à travers de nombreux auteurs, parce qu'elle elle commence par une première note sur l'humilité, sur la modestie
qu'elle
propose effectivement au maire. Puis après, elle entre avec lui dans toute une réflexion sur ce que peut être le sens de l'action politique à travers des textes de philosophes, d'auteurs qui ont compté pour elle, ou d'écrivains d'ailleurs, comme Rousseau, dont elle lui fait le cadeau.
Ouais, non, mais c'est vrai que c'était... Il y a toujours une sorte de mise en abîme quand on travaille avec un acteur. Et moi, c'est vrai que j'ai été curieuse de Fabrice Luchini, au même titre qu'Alice a été curieuse de cet homme, le maire, et effectivement voir Fabrice Luchini, qu'on connaît comme étant si à l'aise, dire en fait je tourne à vide, je n'y arrive pas, pour moi c'était intéressant. Lui faire une note sur la modestie, pour moi c'était intéressant. Enfin, il y avait plein de ponts effectivement entre la vie, le tournage et le film.
Alice Heyman et Paul Terrano, c'est vous, Anaïs de Moustier et Fabrice Luchini, duo à l'écran dans Alice et le maire, un film qui sort en salle mercredi prochain, ce sera le 2 octobre. Un autre duo maintenant avec peut-être d'ailleurs un des rares duos du rock français. Ce week-end, soirée concert, Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko et c'est à la Philharmonie de Paris. Confirmé, Anaïs de Moustier, l'histoire d'amour finisse mal.
Écoutez, j'ai encore un peu d'espoir quand même, mais ça peut arriver, il paraît.
Marcia Baila, Andy, c'est comme ça, ou encore les histoires d'A, comme là, Catherine Ringer sera sans Fred Chichin, mais avec ses musiciens pour fêter 40 ans après la naissance, les Rita Mitsouko, ce groupe donc qu'elle avait co-formé. Midi 20 sur France Culture avec l'actrice d'Alice et le maire, Anaïs de Moustier.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Je leur raconte l'histoire de quelqu'un qui ne pense pas, mais qui a une vocation, le maire, et de quelqu'un qui pense, mais qui n'a pas de vocation, Alice. Voilà ce que dit encore Nicolas Parizère, le réalisateur de ce film à l'affiche mercredi prochain. Est-ce que dans la vie, vous, vous êtes de quel côté? Plutôt de ceux qui ne pensent pas, mais qui ont une vocation, ou de ceux qui pensent, mais qui n'ont pas de vocation? Non, plus sérieusement. Vous avez commencé ce métier d'actrice, de comédienne, avec le sentiment d'avoir une vocation très forte.
Oui.
Où c'est arrivé comme ça?
Oui, non. J'ai commencé ce métier à un moment où il n'est pas encore question de formuler une quelconque vocation. J'avais 13 ans et j'ai fait un film avec Michael Haneke qui m'a fait plonger dans le cinéma pendant 2 mois et demi. Le tournage avait lieu en Autriche. Je jouais la fille d'Isabelle Huppert dans ce film. Il y avait Béatrice Dalle, il y avait Patrice Géraud, Maurice Benichou. Enfin, je me souviens de tout un tas d'acteurs que j'ai pu observer travailler. Et là, après ce tournage-là, est née ma vocation. Même si ça me paraît un grand mot, mais c'est vrai que j'ai formulé très clairement que j'avais envie de continuer à faire ça.
Et vous continuerez toujours? Ou est-ce que vous vous dites que ça peut arrêter demain et vous prévoyez ce que vous pourriez être? Faire d'autres, si jamais ce métier, cette vocation n'allait pas jusqu'au bout?
Ah oui, je prévois quasiment tout le temps d'arrêter. Enfin, que ça sera le dernier film, que peut-être, soit les gens voudront plus de moi, soit bon, au bout d'un moment, ça va m'ennuyer. Donc j'ai toujours en tête l'idée d'un autre métier, de quelque chose d'autre qu'il faudrait que je fasse, mais c'est comme une sorte d'idée abstraite, puisque concrètement, je ne sais pas ce que je saurais faire d'autre. Mais c'est toujours dans un coin de ma tête. Peut-être que ce doute fait partie de ma fonction d'actrice. Au bout d'un moment, je commence à me raconter ça comme ça, en fait. J'ai l'impression que j'ai entendu quand même pas mal d'acteurs dire ça. Je tournais avec Benoît Poulevard dans le film de Quentin Dupieux. Il dit ça y est, j'arrête, c'est fini. Pour moi, c'est impossible que Poulevard arrête de faire l'acteur. Donc voilà, après, peut-être que le métier a en lui des choses qui, moi, me donnent envie d'essayer d'autres métiers, parce que le côté... Enfin, en fait, moi, j'aimerais être moteur de certaines choses un peu plus. Et c'est vrai que la fonction d'actrice est quand même une fonction où on est quand même tout le temps soumis au désir des metteurs en scène. Moi, je pense qu'au fond de moi, très caché, il y a des envies d'écriture, des envies de diriger des choses, diriger des projets. Mais pour l'instant, rien de concret.
Alors, pour l'instant, ces désirs des metteurs en scène sont assez variés. Ça va de la comédie à des films plus classiques, plus sérieux, des rôles que vous avez pu interpréter. Vous avez cité Quentin Dupieux, ou encore, on pourrait parler de Jérôme Bonnel avec À Trois, on y va. Et ce Au poste de Quentin Dupieux qui vous amenait plutôt vers des réalisateurs à l'humour décalé et ce qu'il pouvait aussi projeter de plus pétillant, de plus léger en vous. Il y a eu des films plus sérieux, plus durs. Et ce sera peut-être le cas notamment avec le nouveau film de Robert Guédiguian qui était présenté à la Mostra de Venise, Gloria Mundi, qui sortira en salle fin novembre. Ce sera votre 4e collaboration avec le réalisateur et sa bande, Ariane Ascaride bien sûr, mais aussi Jean-Pierre Darroussin, avec qui vous formiez déjà un couple assez mal assorti, excusez-moi, dans la villa. On écoute Robert Guédiguian.
Même si dans le rôle que je propose, c'est arrivé qu'Ariane, d'ailleurs, ou Darroussin me disent « bon, j'aimais mieux le rôle que j'avais fait il y a 3 ans, quoi. Le rôle que je fais là, j'aime bien, j'aime beaucoup le film, j'aime le rôle, le personnage et tout ça. Mais je sais que c'est pour moi, c'est plutôt facile, en fait. Ça va pas me demander un risque, un effort particulier. Je me dis que c'est évident pour moi de jouer ça. Bon. Ça, je veux dire, peut-être qu'avec un autre réalisateur, il dirait, bon, ben, je le fais pas. Parce que j'ai autre chose, j'ai le choix, ils ont des choix, hein, tous, hein, je veux dire, c'est bon. Et je crois que moi, je subis pas ça, par exemple, si le travail sur le personnage, ils savent que ça va leur proposer leur moins de plaisir, moins de recherche en fait que le personnage précédent, ils vont quand même évidemment ils vont quand même venir.
Qu'est-ce qui est drôle.
Non, il parle c'est... un peu comme Eric Cantona.
Non, mais c'est pas possible son accent. Moi en fait quand j'entends Robert, je n'entends que l'accent, quoi. J'ai vraiment du mal à entendre le fond de ce qu'il dit. Mais c'est magnifique cette musique. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit en gros les gens ils vont venir, il y a pas de problème, ils vont venir. Bah oui, il a raison, c'est vrai. Bon, moi je vais venir. C'est-à-dire que si Robert m'appelle, je j'y vais. Ouais. C'est vrai qu'il y a pas vraiment de doute, c'est une famille
Mais on y va parce que c'est les familles et qu'on est content de les retrouver, ou est-ce qu'il parvient vraiment à vous surprendre?
Et moi, il parvient à me surprendre. Voilà, à l'inverse de ce qu'il dit dans cet enregistrement, moi, à chaque fois, il me surprend. C'est-à-dire me demander d'être la femme de Jean-Pierre, alors que j'ai joué 2 fois sa fille. Déjà, c'était très étrange pour moi. J'avais vraiment l'impression de faire un inceste. Et puis là, dans le dernier film qui sortira donc Gloria Mundi fin novembre, encore une fois, je me suis dit, mais comment fait-il pour penser à moi pour ce rôle-là? C'est une fille extrêmement noire, très dure, très agressive, avec vraiment une colère assez sortie. Et c'est une chose que j'avais jamais jouée avant, donc j'étais ravie que Robert me propose ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, et donc il me surprend.
Vous parliez de la projection des désirs pour un réalisateur, c'est-à-dire de la manière dont il vous perçoit, vous voit, la manière dont ils auraient peut-être envie de vous voir. C'est étrange aussi, on imagine, de travailler avec son frère Stéphane de Moustier, qui vous a là encore embauché, débauché pour son prochain film, La fille au bracelet. Vous avez dit que c'était un film où vous avez le rôle d'une procureure,
oui.
Où vous endossiez la robe noire pour ce film-là. Ça, c'est ce qu'il voyait en vous, ou c'est ce que vous lui avez demandé? C'est un rôle que vous lui avez presque demandé de tricoter sur mesure pour vous,
absolument,
parce que vous ne l'aviez pas encore testé.
Non, j'ai vraiment rien demandé à mon frère. J'aurais jamais osé lui demander quoi que ce soit. Mais en tout cas, lui, il s'est dit, tiens, ça m'intéresse de proposer ce rôle-là à Anaïs parce qu'elle n'a jamais joué ça et qu'il pensait qu'un autre metteur en scène n'aurait pas évidemment pensé à moi pour ce type de rôle. Et il avait raison. Moi aussi, j'étais encore une fois très surprise et assez ravie d'aller sur un nouveau terrain. Effectivement, c'est une femme qui est avocat général et qui est extrêmement vindicative, véhémente, qui essaye de compenser un peu son jeune âge en faisant presque trop. Elle représente la société, hein, donc le procureur, il est là pour être vraiment à charge contre l'accusé, et elle y va vraiment très fort. Donc, encore une fois, c'était un nouveau terrain de jeu, pour moi très agréable, très surprenant. Et j'ai du plaisir, parce que c'est vrai que quand on est acteur, il y a une image qui nous échappe, et une image de nous, quoi, qui nous échappe. Et moi, j'ai été un peu contente là qu'il y ait des nouvelles portes qui s'ouvrent avec la comédie. Là, je vais tourner avec Antonin Perez-Jadko, c'est encore un nouveau code de jeu qui m'intéresse beaucoup. Et Dupieux m'a beaucoup aidée, je crois, dans l'ouverture de cette porte-là. Et puis chez mon frère, chez Robert, dans des rôles de femmes plus dures, en fait, avec quasiment de la mauvaise foi. Et en fait, les personnages imparfaits, c'est très agréable à jouer pour les acteurs.
Et du coup, à 30 ans et quelques jours
32.
Et des poussières, ouais. Vous avez l'impression que vous pouvez tout jouer?
Ah non, pas du tout, jamais de la vie. Tout jouer, non. Ça, je suis assez convaincue qu'il y a des rôles qui ne sont pas pour moi. Ça se choisit de manière très instinctive. Et puis oui, on ne peut pas faire l'économie de ce qu'on est. Donc, il y a des choses qu'on ne pourra jamais jouer, je pense.
Vous les avez identifiées?
Non, pas encore, j'y travaille. Mais puis ça dépend quand même toujours beaucoup du regard du metteur en scène, de qui va nous filmer. Parfois, on se sent très loin d'un personnage. Et puis, avec l'aide d'un metteur en scène, on se dit, ah là, en fait, sous son regard à lui, je vais pouvoir y aller. C'est assez mystérieux, mais je pense qu'on ne peut pas tout jouer.
Alice et le maire est un très beau film et il sort en salle mercredi prochain, le 2 octobre. C'est avec vous et avec Fabrice Lucchini. Merci beaucoup à vous, Anaïs de Moustier, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.